Dans la vie, il y a deux possibilités, subir ou diriger sa vie. En écoutant BTLV, vous avez choisi votre camp. Ici, pas de censure, pas de pub. Seulement une autre information que celle délivrée à longueur de journée par l'ensemble des médias. Bob vous dit toute la vérité, tous les soirs, 21h minuit, sur BTLV.
Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur BTLV, que vous soyez un tout nouveau membre ou un habitué de la maison depuis longtemps. Je ne vous remercierai jamais assez, car c'est vous qui m'octroyez le droit de vous proposer un autre regard sur la vie, la mort, la société, l'univers. C'est ça BTLV, là où les autres médias s'arrêtent, BTLV commence.
BTLV.fr, c'est 2000 heures de podcast, de la radio, de la télé, des événements, des sorties, des rencontres. Plus qu'un média, BTLV est une communauté.
Nous sommes déjà le 30 juillet, une bonne partie de l'été est déjà derrière nous et si vous souhaitez réussir votre rentrée, je vous propose de venir avec toute l'équipe de BTLV à Bugarrache.
Les 5 et 6 septembre prochains, BTLV.fr vous propose un week-end ufologie à Bugarrache. Deux jours pour un programme exceptionnel. Le samedi 5, conférence, table ronde, film sur le sujet OVNI et banquet géant. Le dimanche 6, partez à la découverte d'une montagne unique. Randonnée sur le mont Bugarrache accompagnée par des guides. Vivez un moment inoubliable. Et pour terminer, enregistrement de l'émission « Bob vous dit toute la vérité ». Infos et réservations sur btlv.fr, onglet événements.
Comme d'habitude, ce sera une sortie extraordinaire. L'occasion nous sera donnée de nous réunir. Nous, on filmera des émissions, puis on va rester même quelques jours après dans la région pour aller signer 2-3 interviews dans des lieux assez magiques du côté de Bugarrache, comme dit la jeune fille. C'est marrant parce que j'ai l'impression que quand je l'écoute, on va être avec des vaches là-bas. Bugarrache. Alors pas du tout, en fait. Mais je sais pas pourquoi elle dit Bugarrache.
C'est Bugarrache.
Il était une fois un homme qui disait toute la vérité, rien que la vérité.
Il y a quelqu'un ?
Le fait que tu n'aies rien vu ne signifie pas qu'il n'y a rien.
Vous ne verrez plus le monde de la même façon. Bob vous dit toute la vérité.
Je crois que c'est la plus belle phrase que j'ai pu retenir depuis que je fais BTLV. Le fait que tu n'aies rien vu ne veut pas dire qu'il n'y a rien.
Ça veut exactement tout dire.
Il est l'un des habitués de BTLV, sûrement l'un des plus poétiques. Voilà pourquoi je l'invite dès que j'en ai l'occasion. Yann Lipnik, bonsoir Yann.
Bonsoir à tous.
Comment ça va?
Écoute, super bien. Ça va bien, merci.
Ravi de t'accueillir. Je rappelle pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur BTLV que tu es géobiologue, bioénergéticien de métier. Ta passion pour les sites sacrés, les esprits de la nature ont fait de toi un explorateur des mondes invisibles. Tu as des capacités de perception qui t'ont permis de mettre au point des méthodes de mesure accessibles au plus grand nombre. Tous ceux qui viennent te rencontrer lors de tes formations et depuis quelques années, tu utilises tes perceptions pour communiquer avec les êtres invisibles. On a fait bon nombre d'émissions sur ces fondamentaux, ces êtres de la nature comme tu les présentes et comme moi j'aime me les imaginer. Et puis tu viens de sortir un livre là durant ce mois de juillet, Enseignements et révélations des gardiens de la Terre. Alors j'aime beaucoup dans ce titre deux choses: enseignements et révélations des gardiens de la Terre. Enseignement, ça veut dire qu'on a tant de choses encore à apprendre, on est encore des bébés au niveau de l'apprentissage de notre planète.
Oui, effectivement, nous connaissons nous-mêmes, on ne se connaît pas très bien déjà, et la planète, on ne la connaît pas très bien d'un point de vue invisible. Quoi. On connaît bien sa surface, on va dire un peu ses profondeurs, parce qu'évidemment, il y a des spécialistes de la géologie, etc. Mais je veux dire, même les fonds sous-marins très très profonds, on n'est même pas sûr qu'ils soient très très connus. Après, ça, c'est le plan physique. Mais ce qu'on connaît le moins, c'est les différentes dimensions invisibles qui sont dans lesquelles nous vivons et nous avons notre existence.
Ouais.
Et voilà, le domaine de la géobiologie explore ces dimensions. Et donc, grâce à mes guides, j'ai pu avoir une connaissance très précise de ce qui se passe dans ces dimensions invisibles.
Est-ce que tu as... Moi, c'est toujours la question que je me pose. Je commence à poser de plus en plus cette question à tous ceux qui viennent ici et qui, comme toi... me raconte des choses sur le monde invisible, etc. Est-ce que t'as pas peur parfois d'être pris pour un fou ?
Ben, peu importe. Moi, à la limite, mon ego, disons que je l'ai laissé de côté. Mm-hmm. On va dire, si les gens me prennent pour un fou, moi, je les prends peut-être pour des ignorants. Donc, on est quitte, je veux dire.
Ouais, c'est beau ça.
chaque personne qui a découvert des choses au début était prise pour quelqu'un de fou, hein, ouais. En réalité. Donc.
C'est pas facile quand même, hein, parce que moi-même, je ne fais que de la radio et de la télévision, et pourtant, dès que je parle de ça ou que les gens que je rencontre savent que je fais ça, il y a toujours un petit regard un peu amusé en disant ouais c'est bon, l'autre il est branché OVNI, ça il a vu. Tout de suite c'est les petits hommes verts, c'est-à-dire que je leur dis on fait la politique, on fait les aides de la nature, non c'est les petits hommes verts, c'est voilà. Tu vois ce que je veux dire, la stigmatisation, elle est inévitable, elle est estampillée, puis c'est très français, hein, et pays des étiquettes et du fromage.
Disons que moi, ce qu'il y a, c'est que dans les méthodes que j'ai mis au point, ouais. J'ai la possibilité de faire vivre des expériences aux autres personnes qui ne me croient pas. Je leur dis, de toute façon, il n'y a rien à croire. Moi, je vais vous faire voir un truc, je vais vous faire sentir quelque chose que vous n'avez jamais senti. Ouais. Et puis, vous verrez qu'il y a bien quelque chose qui se passe. Et d'ailleurs, dans d'autres émissions, souviens-toi, je vous avais donné des codes.
Ah ouais.
On était hyper ancrés, on avait l'impression qu'on s'enfonçait dans le sol parce que ça activait des chakras souterrains. Après, il y avait d'autres codes qui activait le torus, où on avait l'impression de tomber en arrière, etc. Donc les gens qui ne me croient pas, je leur dis, ben, vous avez raison, moi non plus, je crois en rien, j'expérimente, et à force d'expérimenter, j'ai mis des méthodes de mesure qui permettent au plus grand nombre de pouvoir valider quelque chose qui est invisible.
Mais comment t'expliques ce scepticisme quand même ? Parce que moi, j'ai beau leur dire, par exemple, j'ai reçu des astrophysiciens, qu'on parle de physique quantique, de différentes dimensions, de gens qui bossent, etc., dessus. Et là-bas, non, c'est des conneries. Mais tu te dis, mais c'est hallucinant. C'est quoi ? C'est la peur, peut-être, de l'inconnu ?
Oui, déjà, oui, ça pourrait remettre en question, on va dire, leur monde, leur certitude, leur paradigme. Mais je pense que c'est la nature humaine est comme ça. Parce qu'il y a 100 ans, tu aurais dit que tu as un poste de radio et puis que tu peux capter déjà plusieurs personnes qui parlent en changeant, en tournant un bouton, tout le monde serait pris pour un fou.
Ouais.
Et c'est le monde invisible, déjà. Vous êtes dans le monde invisible.
Bien sûr, c'est vrai.
Et en plus, maintenant, avec l'image, avec le téléphone, tu peux avoir Skype sur ton téléphone, tu téléphones gratuitement au mec qui est de l'autre côté de la planète, et en plus, tu vois son image et tout. Là, les mecs, ils t'auraient dit non, mais tu prends trop de drogue.
Non, mais c'est vrai, t'as totalement raison. C'est vrai que le mec, il y a 150 ans, disait tu vas entendre quelqu'un à la radio que tu ne vois pas par un appareil. Il dirait, t'es fou, toi, t'es complètement. Mais rappelle-toi, quand le téléphone portable est arrivé, on disait, mais ça marchera jamais. C'est-à-dire que on pourra pas être dans la rue sans fil, téléphoner. On se souvient tous de ces films de science-fiction où on voyait les téléphones du FaceTime. Tu sais, aujourd'hui, tu peux appeler et voir la personne avec qui tu parles, tu vois. On se disait à l'époque, mais jamais l'image comme ça par le téléphone. Et maintenant, ce qui est fou, c'est qu'on s'en rend même plus compte.
Oui, et puis je pense que les gens qui, au départ, les gens qui ont dû inventer ces technologies, ils ont dû passer pour des barjots aussi.
Mais complètement, ouais.
À un moment, on a dû leur dire, attendez, votre truc, ça marchera jamais. Ils ont dû trouver, il y en a même qui sont allés dans d'autres pays chercher des sponsors parce qu'on les croyait pas en France.
Oui, bien sûr.
Des trucs comme ça. Dès que tu inventes un truc, tu es pris pour un fou. Donc, c'est un petit jeu. Je veux dire, tous les chercheurs et tous les découvreurs, surtout, ils sont dans cette même position que moi. Par exemple, là, j'ai vu un film l'autre jour, E-Origine, là, où tu sais pas si tu l'as vu, ce film, où le mec qui photographie les yeux et tout.
Ouais.
Mais j'ai demandé à mes guides, ils m'ont dit, oui, c'est vrai, quand on se réincarne, les yeux, la trace des yeux reste la même au cours des incarnations. Bon, mais le gars qui a fait ce film, d'après moi, est-ce que c'est un fou? Est-ce que c'est un visionnaire? Est-ce qu'il a voulu faire passer un message à travers ce film et il savait que c'était vrai? Va savoir.
Mais pourquoi tu parles de tes guides, ça tombe bien que tu parles de cela, parce que pourquoi ne se manifeste-t-il pas plus au plus grand nombre afin que ce soit acté, parce que on aurait aujourd'hui une planète sur laquelle on saurait que bon ben voilà, on a une vie, que attention, si on n'est pas sympa dans cette vie, si on fait des connaissances de vie, on le paiera dans la vie d'après, ou on passera devant pas le tribunal, mais la revue de notre vie, puis on dira voilà, t'as fait quelques conneries, il va falloir que dans les prochaines tu payes un petit peu ce que t'as fait pour t'améliorer. Et puis pourquoi on sait pas non plus que il y a des guides, des gens qui nous aident, qui nous permettent d'être pas trop mal dans nos rails, etc. Tu vois, pourquoi on ne le sait pas plus ? Pourquoi c'est pas permis à tout le monde ?
Ben, en fait, c'est permis à tout le monde, mais ça demande un effort. C'est-à-dire que moi, le gars qui me dit « j'y crois pas », ben, j'ai dit « écoute, il n'y a pas de problème. Tu viens passer quelques jours avec moi, je vais t'apprendre. Dans une semaine, tu sauras communiquer avec ton ange gardien. Ouais. Tu verras qu'il y en a un qui existe vraiment et à qui tu peux lui poser des questions, par oui, par non. » Donc, c'est pas... tout le monde ne peut y arriver. Ce n'est pas un don extraordinaire. C'est, on va dire, c'est quelque chose qu'on n'a jamais appris à l'école, c'est tout. Si on avait appris ça dès l'âge de 10-12 ans, hein, d'ailleurs, moi, je vois quand il y a des enfants qui apprennent, eux, ils n'ont pas de blocage. Ils arrivent très facilement à communiquer avec les présences. Bon, pour eux, c'est plus les esprits de la nature parce que c'est plus ludique. Hein. Mais pour les adultes, c'est quand même plus parler avec leur ange gardien qui va pouvoir leur dire, par exemple, quelle est leur mission de vie. Tout le monde aimerait savoir quelle est sa mission de vie, quel est des renseignements comme ça. Est-ce qu'il est sur la bonne voie dans cette vie? Est-ce qu'il doit se nettoyer par rapport à des choses des vies passées, comme tu disais? Effectivement, c'est pour tout le monde, c'est accessible, mais peu de gens font l'effort, vu qu'ils sont coincés dans des réalités matérielles, voire embrigadé par des systèmes, on va dire, de conditionnement, on pourrait dire. Hein. Ouais. Je crois que tu en parles dans tes émissions. Ouais. Hein, je veux dire, on est plus ou moins robotisé par la société.
Voilà, c'est ça. Ouais. On pourrait imaginer qu'il y a une société, justement, ou une certaine gouvernance qui ne veut pas l'éveil, en fait, des gens.
Ben oui, parce que du coup, on s'apercevrait que, voilà, que la réalité est falsifiée, que 95% de la nourriture est polluée, qu'on nous fait prendre des vessies pour des lanternes, etc. Ouais. Donc forcément, les gens comme moi vont mieux dire qu'ils sont fous, parce que de leur dire, si on me disait que j'avais raison, ben, je réveillerais trop de gens, ce serait dangereux, quoi.
Ouais.
Donc bon, si je touche quelques centaines, quelques milliers de gens, c'est pas très grave, mais bon, si je passe à la télé, ça va faire mal, quoi.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, les mecs vont commencer à se dire, parce que il y a toujours ceux qui te tueront sur l'autel de la société bien-pensante, et puis il y a toujours ceux, quand même, qui disent... Putain, ça me touche, hein. Il y a quand même une résonance chez moi. C'est ça qui est toujours intéressant. Et malheureusement, et pourtant il y a de plus en plus de gens qui sont en résonance avec des propos comme les tiens, mais qui ils sont encore aussi, ils se sentent pas très bien, un peu en marge parce que leurs amis sont pas comme ça, etc. Donc c'est pas si simple. Alors toi, par contre, tu as eu aucun problème à te mettre quand même dans l'édition, à sortir des livres, à expliquer, etc. Alors ces guides. Quand tu nous dis on peut leur parler, est-ce que... Parce que beaucoup, tu sais, quand on arrive à la fin de notre vie ou quand on perd quelqu'un, on se dit est-ce qu'il est allé voir les gens qu'il aimait, les gens de notre famille, la maman ou le papa qui est parti plus tôt. Est-ce que c'est ça, les guides? Est-ce que ça peut en faire partie? Ou est-ce que ce sont... on les appelle communément les anges gardiens, souvent. Est-ce que ce sont... Bon, des gens ou des entités qui sont spécialement conçues pour ça. Et est-ce qu'on en a un chacun? Ou est-ce qu'un ange gardien ou un guide travaille sur plusieurs personnes?
Alors, effectivement, les anges gardiens ont des milliers d'émanations. Chaque ange gardien, en fait, il se manifeste dans des dimensions relativement basses pour pouvoir être accessible à tous les humains. Et chaque ange gardien a des millions d'émanations. Mais en réalité, leur émanation principale se trouve dans des dimensions très élevées.
Ouais.
Ceci dit, les guides ne sont pas que des anges gardiens. Moi, j'ai par exemple un certain nombre d'archanges qui me guident aussi. J'ai aussi des êtres de l'intra-terre, vu que j'ai eu plusieurs incarnations. Faut le savoir, on n'a pas tous des incarnations à la surface de la Terre. On peut avoir des incarnations à l'intérieur de la Terre.
Ah oui.
Moi, c'est mon cas. J'ai eu plusieurs incarnations donc dans ce qu'on appelle la Terre creuse. Donc, j'ai beaucoup de guides de l'intra-terre. Quelques guides qui sont des maîtres ascensionnés, et j'ai aussi quelques ancêtres qui me guident, qui faisaient le même métier que moi, et donc qui eux sont montés dans la lumière mais ne se sont pas encore réincarnés, ou ils ont fini peut-être leur cycle de réincarnation, donc je peux aussi les appeler. Ce qui fait que dans mon métier, par exemple, de géobiologie, j'ai plus d'une dizaine de guides, et le livre que j'ai écrit, il y avait au moins 7 ou 8 guides qui m'enseignaient tout ce qu'ils voulaient que l'humanité connaisse. C'est pas un livre de géobiologie ordinaire pour équilibrer sa maison, bien qu'il y a tout un paragraphe sur la géobiologie de l'habitat. Mais c'est plutôt un livre où on essaye d'équilibrer la planète. Car en fait, les géobiologues, ça serait dommage qu'ils n'utilisent leurs compétences qu'à faire leur petit chez-soi ou la petite maison du voisin. Alors qu'en fait, notre planète, elle est en danger avec toutes ces pollutions, les arbres qui meurent, la pollution de l'eau, etc. De plus en plus d'antennes et de pollution, on va dire, de haute fréquence, etc. Donc, si tu veux, les guides nous ont transmis à travers ce livre, des enseignements pour protéger la planète. Donc ouais. Ça va au-delà de la géobiologie, on va dire, ordinaire, qui ne s'occupe que de son petit coin. Et donc il y a différents guides qui ont donné des solutions accessibles à tous, c'est-à-dire que tout le monde peut appeler un ange ou un archange. C'est donné à tout le monde. Le seul truc, c'est que comme les personnes n'ont pas acquis la pratique de pouvoir communiquer avec eux ou de pouvoir mesurer, ils sont un peu... c'est comme s'ils arrivaient les yeux bandés dans une forêt en pleine nuit. Ils savent pas si c'est vrai, si ça marche, comment faire, etc. Donc il y a quand même effectivement une méthode. Donc dans chacun de mes livres, je rappelle les méthodes de base de communication, les méthodes de base de clair ressenti qu'il faut posséder pour après pouvoir acter dans tel domaine ou tel domaine, que ce soit celui de l'équilibrage énergétique, celui de la géobiologie, celui de la communication avec des présences diverses et variées, on va dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les guides, il y en a dans plein de hiérarchies différentes.
Ouais.
Il n'y a pas que les anges gardiens. Ils ont tous des choses à nous apprendre.
Ouais. 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 Alors,
ça peut paraître extraordinaire, mais pourtant, je peux vous te garantir que maintenant, il y a des milliers de gens qui pratiquent ma méthode et qui communiquent avec leur ange gardien. C'est le plus facile, on va dire.
Alors, quand on dit ange gardien, on a toujours la sensation qu'ils sont là pour nous protéger, pour nous guider. Malgré tout, on voit qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont dans des situations très inconfortables, périlleuses, difficiles, qui vivent des atrocités. Alors, ils sont où, ces anges gardiens, à ce moment-là?
Alors, les anges gardiens, oui, on les appelle des anges gardiens, mais ils n'ont qu'un pouvoir limité sur la matière. Ils ont qu'un pouvoir de conseiller. Alors, des fois, ils nous conseillent à notre insu, dans nos rêves, ou par intuition. Et donc, ils vont nous donner l'intuition d'aller plutôt par là que par là. Et donc, dans ce cas-là, on se ramassera pas la claque qu'on aurait pris si on était allé dans le mauvais côté. Donc ils vont augmenter notre intuition. Pour certains, ça va se passer dans les rêves. Ils vont avoir des intuitions, des rêves prémoniteurs qui leur dira « faut pas partir par là en voyage », etc. Donc ils ont plutôt un rôle de conseiller que de garde du corps. Ça, il faut le savoir. Et puis ce qui est par rapport aux anges gardiens, ce qui est, on va dire, un peu difficile, et moi d'ailleurs le premier j'étais comme ça, c'est que les anges gardiens nous rappellent les religions. Et la plupart du temps, on a un blocage. Moi-même, au début, je croyais aux esprits de nature, mais pas aux anges gardiens, parce que je m'étais dit, les anges gardiens, c'est des inventions des religieux pour nous manipuler, etc. Alors qu'en réalité, les anges gardiens existent bien avant les religions, ne font partie d'aucune religion, et après, c'est les religions qui ont exploité leur existence pour manipuler les humains, on va dire. Et donc, ça a laissé tellement de traces négatives chez l'être humain que quand tu parles d'ange gardien, les mecs, ils rigolent, tu vois, ils se foutent de ta gueule, ils vont se dire, bon, allez, lui, il est complètement barré dans une religion, etc. Alors qu'eux, ils font partie d'aucune religion, et ce sont des conseillers. Ils ne peuvent pas faire la pluie et le beau temps, mais ils peuvent t'aider à te donner un conseil, à prendre le bon chemin, à te dire, attention, tu es parasité par un truc, si tu t'en apercevais, tu pourrais peut-être te l'enlever. voilà, en quelque sorte...
On imagine qu'il y a les anges gardiens qui sont ceux qui sont bienveillants quand même. Est-ce qu'on peut avoir des anges gardiens néfastes, des anges noirs? On pourrait noirs parce qu'on les oppose toujours aux blancs et qui sont plutôt vertueux. Mais quand on voit par exemple toutes les atrocités faites par certaines personnes au nom d'une certaine religion aujourd'hui, est-ce que il y a des anges gardiens qui peuvent avoir des envies néfastes, parce que s'il y a le bien, il y a le mal, fatalement.
Oui, dans le monde invisible, il y a différentes dimensions, il y a des dimensions positives et négatives. Ceux qui, malheureusement, sont conseillés par des êtres négatifs, on appelle plus ça des anges gardiens, mais des démons, sont malheureusement conseillés par des êtres qui se nourrissent de la douleur des autres, et ce n'est plus des anges gardiens. On appelle ça plutôt des créatures infernales, des démons, après il y a tout un tas de dénominations, Et effectivement, le côté noir existe aussi dans le monde invisible. Il y a des dimensions paires qui sont plutôt positives, des dimensions impaires qui sont plutôt négatives. Et si tu veux, quand on étudie le monde invisible, on comprend très bien comment tout ça est organisé, où se trouve, dans quelle dimension se trouve chaque catégorie d'êtres. Et on peut les classifier. Moi, ça a été ça mon boulot, de classifier un peu tout, puisque je suis un explorateur, donc je suis quelqu'un de curieux, et en même temps, il y a une approche scientifique. Donc j'ai classifié par chaque dimension, qui s'y trouvait, qu'est-ce qu'il faisait, etc., etc. Et j'ai écrit plusieurs livres là-dessus. Et du coup, ça me donne une vision très analytique du monde invisible, mais en même temps, très globale aussi. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est comme je veux dire, sur une super bagnole, tu as des ingénieurs qui ont fait chaque pièce d'une façon la meilleure pour qu'à la fin, ça fasse une super bagnole.
Ouais.
Ben, ils ont dû donc avoir un côté analytique pour réfléchir à chaque petit morceau de la voiture pour qu'à la fin, ça fasse un truc chouette.
Mmh.
Ben, dans le monde invisible, si on connaît bien exactement ce qui se passe dans chaque dimension, qui c'est qu'il y a, qu'est-ce qu'ils font, etc., on commence à avoir une vision globale, et grâce à cette vision globale, on va pouvoir reconsidérer le monde, ce paradigme, on va dire, et puis essayer de faire pour le mieux pour améliorer les choses.
Ouais.
En essayant de comprendre aussi que tous les gens qui travaillent pour le contraire de la lumière, mais qui foutent le bordel sur la planète et qui créent des atrocités, peut-être qu'ils sont nés dans des conditions pas possibles et eux-mêmes ils ont été manipulés d'une façon incroyable. Donc on condamne personne, même si on constate qu'il y a des horreurs. Je pense que tous ces gens-là qui font des choses horribles, eux-mêmes ils ont dû en subir dans leur enfance, etc. Alors après, il y a peut-être des gens qui sont foncièrement mauvais et qui se réincarnent sans arrêt comme être mauvais. Voilà. Je pourrais pas le dire.
Parce qu'il y a quand même, aujourd'hui, on a une société où on sent un malaise, on sent une certaine tension. Alors, peut-être pas du côté de chez toi, mais en tout cas dans des grandes, grandes villes comme Paris, on sent qu'il y a une tension. Tu vois ce que je veux dire? Cette tension, elle est palpable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ces démons peut-être commencent à prendre le pas sur les anges gardiens, sur les guides qui sont plutôt positifs?
Disons qu'il se passe qu'il y a effectivement un genre de confrontation, on pourrait dire, parce que d'un côté, il y a la lumière, il y a le niveau vibratoire qui augmente de la planète tout entière, et de l'autre, il y a des êtres qui font tout pour que ça diminue, donc il y a une confrontation permanente qui crée un genre de stress qui se manifeste davantage dans des villes qui sont un peu les champs de bataille des forces antagonistes. C'est vrai que nous, à la montagne, il y a beaucoup moins de stress, c'est beaucoup plus lumineux.
Ouais.
Bon, on vit moins ces choses-là. Et c'est vrai que quand je voyage, bon, je suis obligé d'aller en ville pour prendre les avions, etc.
Ouais.
Je me rends bien compte que dans les villes, c'est tout à fait différent. Alors, non seulement, en plus, il y a ces forces antagonistes qui s'opposent, puisqu'il y a des gens qui travaillent pour la lumière et d'autres qui travaillent pour l'ombre, on va dire. Mais en plus, il va y avoir l'accumulation de toutes ces forces électromagnétiques, hertziennes, de toutes ces pollutions qui vont en plus plomber, on va dire, la ville. Maintenant, c'est avec la G4, la G5, en fait, ces nouvelles ondes qui plombent. Donc, ça, c'est sûr que les gens vont se sentir stressés parce qu'ils seront sans arrêt agressés. Si c'est pas par des gens qui travaillent pour l'ombre, ça va être par des pollutions subtiles inimaginables, quoi. Ouais, ça, c'est pour ça que je pense qu'il y a une grande partie des gens qui sont très sensibles, qui vont vivre dans les campagnes parce que sinon leur sensibilité serait un peu diminuée. On va dire, moi si j'habitais en ville, au bout d'un moment, je serais tellement en train de me protéger que j'aurais plus assez d'ouverture pour pouvoir communiquer avec ces êtres de lumière.
Ouais, c'est ça. Enseignement et révélation. Qu'est-ce que sont ces enseignements? Est-ce que ces guides sont là pour nous faire avancer, pour nous enseigner des choses? Est-ce qu'ils sont pas un peu parfois fatigués de voir que on a un peuple assez particulier? J'ai vu un film super il y a pas longtemps qui s'appelle L'Agence avec Matt Damon, où en fait tu sais on s'aperçoit dans le film que il y a des soldats, enfin même pas des soldats, des collaborateurs du grand architecte qui, pour chacun d'entre nous, a un plan. Et il a un plan pour le héros qui est Matt Damon. Et malheureusement, dans ce plan, rien n'est laissé au hasard. Ça veut dire que le hasard n'existe pas. En tout cas, c'est ce qu'il voulait faire nous comprendre. Sauf que le hasard est plus le destin et le hasard est plus fort que tout, parce que il rencontre une femme dont il devient amoureux. Les collaborateurs du grand architecte ou de Dieu, on l'appelle comme on veut, font tout pour qu'ils ne se voient pas, et malgré tout, toutes les années passent, et ils sont toujours amenés à se rencontrer. Donc, est-ce que tu penses que nous, on a peut-être des gardiens comme ça, qui sont faits pour qu'on ait chacun un plan? Et tu sais, à un moment donné, il y a Matt Damon dans le film qui dit, mais Et le libre arbitre, il dit bon, on a essayé de vous laisser. Hein. Enfin, on a vu ce que ça a donné. On a vu les Romains. Après, on a vu la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Puis après, on dit bon, il va falloir qu'on réintervienne parce que c'est un peu le bordel quand on les laisse faire. Est-ce que c'est un peu ça aussi? Ils sont là pour pas qu'on s'étripe de trop, parce que déjà qu'on s'étripe beaucoup, et peut-être que si on nous laissait comme des gosses dans un jardin ou avec des fils électriques dénudés, on serait capable de s'électrocuter complètement.
Ben oui, je pense que effectivement il y a un plan. Je dirais que le plan, bon, pour moi, j'appelle ça la mission de vie. On a tous une mission de vie, et tant qu'on l'a pas trouvé, on tourne autour du pot et on sent que c'est pas tout à fait ça. On sent qu'il y a pas, qu'on n'est pas complet, ou qu'il y a un manque dans quelque chose. Mais bon, quand on a une mission, il y a plusieurs façons de la réaliser. Je veux dire, le libre arbitre, il est là-dedans. Il est dans comment réaliser la mission que l'on est venu pratiquer, on va dire, sur cette planète. Donc il y a une part d'un plan et il y a une part de libre arbitre. C'est qu'on pourra aller d'un point à un autre. Tu peux prendre la route que tu veux, en gros.
Ouais, ouais.
Mais tu vas pas partir dans le sens inverse non plus. Il faut quand même qu'il y ait une logique. Donc il y a un plan global et en même temps, il y a du libre arbitre. Et tout ça se mélange, si bien que le hasard, la destinée, c'est comme si... Imagine que tu dois aller me voir ici dans les Pyrénées et que t'as pas... tu prends ta bagnole et t'as pas de carte de France. Ben, si t'as pas de GPS non plus, par exemple, tu vas prendre ta boussole.
Ouais, bien sûr, ouais.
En gros, tu vas te dire, bon, il habite au sud, dans les Pyrénées, on va suivre le soleil. Mais t'auras, je veux dire, 1000 routes différentes pour arriver jusqu'à chez moi. Si ta mission de vie, ce sera d'arriver jusqu'ici, et les 1000 routes différentes, ça sera ce qu'on appelle le hasard ou la destinée, parce que sur ces routes-là, tu vas peut-être rencontrer justement une femme qui fait du stop, que t'as rencontré dans une autre vie, enfin, des histoires pas possibles, quoi. Donc, je vois ça comme ça, un peu, tu vois, pour donner une image.
Alors, ça, c'est l'enseignement que peut-être qu'on reçoit, ou en tout cas qu'on veut bien nous enseigner tranquillement, peut-être à notre insu, sans qu'on s'en aperçoive, parce que je pense que quotidiennement, on reçoit des enseignements. Si on pense qu'il y a un monde supérieur, qu'il y a un plan, on nous met sur nos missions de vie, etc., malgré qu'il y ait des gens qui aient des vies totalement dingues, hein, c'est-à-dire qui passent qui changent de vie 10 fois, c'est les enseignements. Alors, je te propose de faire un break et on va dans un instant parler des révélations. Parce que, bien sûr, ton livre, c'est Enseignants et révélations des gardiens de la Terre. Que t'ont-ils révélé, ces gardiens de la Terre? On va tout savoir dans un instant.
Pour contacter Bob, envoyez un mail à bob@btlv.fr.
Ah oui, toutes les adresses mails ont changé. Hein. bob@btlv.fr, c'est beaucoup plus simple. vous le savez, c'est bientôt, nous allons lancer kundalinipeople.net. Alors, les préinscriptions, on est déjà à plus de 2000, hein, tellement c'est un succès. Donc, j'imagine que vous pouvez encore le faire sans aucun problème, sans aucune peur du jugement. Retrouvez-vous autour de ces valeurs, de ces sujets qui font BTLV. Extrait.
KundaliniPeople.net, le premier site de rencontre entre personnes éveillées. Amitié, partage, amour, rencontrez enfin des hommes et des femmes qui vous ressemblent. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur KundaliniPeople.net ou directement sur btlv.fr.
Magnifique site, hein, c'est déjà un succès, mais je m'en suis aperçu lorsque nous faisons des opérations extérieures, eh bien, vous avez envie de vous parler, d'être ensemble, de communiquer sans être pris pour un fou, de parler, eh bien, tiens, des êtres de la nature, des anges gardiens, etc., sans être pris pour un taré, n'hésitez pas, kundalinipeople.net.
Dans quelques semaines, les vacances commencent. Pour ne rien louper de BTLV, téléchargez l'appli mobile gratuitement. Actu, radio, TV, emmenez la vérité avec vous partout, dans tout le monde. L'application BTLV est valable sur Apple et Android.
BTLV présente les lunettes Psio. Merveille technologique, les lunettes Psio vous aident à méditer, à vous relaxer, à vous régénérer. À l'aide des différents programmes, apprenez à lâcher prise pour mieux profiter de votre vie. Commandez dès maintenant vos lunettes Psio, profitez du code promo Bob et recevez en cadeau des programmes supplémentaires. Rendez-vous sur btlv.fr, onglet boutique.
Il était une fois un homme qui disait toute la vérité, rien que la vérité.
Il y a quelqu'un ?
Le fait que tu n'aies rien vu ne signifie pas qu'il n'y a rien.
Vous ne verrez plus le monde de la même façon. Bob vous dit toute la vérité.
Et ouais, c'est ici que ça se passe. Parlez-en autour de vous. Une radio hors du commun, une télé hors du commun. On a beau nous copier, on sera jamais égalé. Bah oui, parce qu'on est là tous les jours, 24 heures sur 24, pour vous proposer notre regard sur la vie, la mort, la société, l'univers. Le monsieur, il a raison. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Et je peux vous dire qu'au fil du temps, j'ai pris conscience de tout cela. Nous sommes avec Yann Lipnik, qui vient de sortir Enseignement et révélation des gardiens de la terre aux éditions Auville-Roy. On a parlé des enseignements, Yann. Les révélations des gardiens de la terre, quelles sont-elles ces révélations? Alors, déjà, comment voit-il le fait qu'on maltraite notre planète? Comment voit-il comment, ce cadeau? Parce que c'est un cadeau, la planète bleue sur laquelle nous vivons. Quel regard ont-ils sur nous?
Bon, globalement, ils ne nous jugent pas. Ils ne nous jugent pas, bien que j'ai déjà discuté avec certaines présences qui venaient d'autres planètes, des présences extraterrestres qui venaient observer la Terre, qui, eux, pensaient qu'on était une bande de dégénérés, en gros. Bon, ils n'avaient pas tort, parce qu'ils nous voyaient globalement. Mmh. Bon, mais les êtres qui sont un peu plus spirituels, ont beaucoup plus de compassion, on va dire, ne nous jugent pas, mais constatent qu'on est comme des petits-enfants à s'amuser avec du nucléaire, à faire péter des bombes sous la Terre, à se rendant même pas compte qu'on est en train de tout polluer, de détruire, de faire sauter notre propre bateau, on va dire, notre propre vaisseau planétaire. C'est quand même un vaisseau. On voyage à travers la galaxie sur le vaisseau Terre. Et là, on est en train de le détruire. On scie la branche sur laquelle on est assis, en gros. Donc, ils se disent, bon, les humains sont encore à l'âge de la petite enfance au niveau de la conscience. Et ils souhaiteraient nous aider à prendre conscience, à nous réveiller, ce qu'on appelle l'éveil, l'initiation, c'est-à-dire à devenir un peu plus grand et à respecter notre terre-mère, qui est la branche sur laquelle nous sommes assis, on va dire. Donc parmi les révélations les plus fantastiques les unes que les autres qu'il y a dans ce livre, ils nous ont donné, disons, quatre façons de protéger la Terre, au mieux, disons, accessible au plus grand nombre. Parce qu'évidemment, quand on est spécialisé en géobiologie, on a beaucoup plus de façons que ça.
Ouais.
Là, ils donnent quatre façons, mais des trucs qui sont complètement hallucinants. Par exemple, pour neutraliser les antennes et les lignes à haute tension, ils nous donnent un code que l'on va programmer sur des pierres et que l'on va mettre... Alors, tiens-toi bien, ça va te paraître incroyable, et même à tous les auditeurs. On va le mettre au pied d'une antenne ou au pied d'une ligne à haute tension. Alors la dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a seulement une semaine, c'était dans l'Aude, c'était dans un village qui s'appelle Aigne. J'ai neutralisé une ligne de 380 000 volts, c'est les plus grosses lignes en haute tension, parce que je faisais une expertise donc pour un vigneron qui avait des vignes qui étaient sous ces lignes.
D'accord.
J'ai dit, écoute, j'ai des méthodes dans mon nouveau livre. On a programmé deux pierres, on est allé au pied des pylônes. On a pris des pierres de plus de 5 kilos, on a programmé un code dessus. On les a posées chacune sur un pylône de chaque côté de sa vigne, puisque les pylônes sont espacés à peu près de 500 mètres. Et il y a eu 4 kilomètres de lignes qui ont été neutralisées.
Mais quand tu dis neutralisées, il s'est passé quoi?
Alors neutralisées, ça signifie que la fréquence de la pollution est passée dans une dimension, dans la 16e dimension. En fait, si tu veux, il y a plein de dimensions autour de nous.
Ouais.
Et sur notre planète, il y en a 24. Et la 16e dimension est une dimension neutre, un peu comme la Suisse en Europe. C'est-à-dire c'est une dimension où il n'y a aucun être qui y vit et ou qui n'affecte aucunement les autres dimensions. Donc toute la pollution de l'antenne, on peut la tester si on teste dans la 16e dimension, mais dans toutes les autres dimensions, il y a zéro pollution. Ce qui fait que les esprits de la nature, les humains, tous les êtres vivants, même les esprits des plantes, des arbres, etc., sont contents puisqu'il n'y a plus de pollution dans le monde astral. La 16e dimension, c'est une dimension du plan mental et ça a fait basculer toute l'énergie de pollution de ces antennes dans une dimension où il n'y a rien, on va dire, en quelque sorte. Donc ça, on le sent. Si tu veux, tu passes une ligne à haute tension de 380 000 volts, si la ligne n'est pas neutralisée, tout de suite, tu as des picotements à la tête.
Ouais,
il n'y a pas besoin d'être clair-sentant pour sentir la pollution d'une ligne de 380 000 volts. Tu as presque tes cheveux qui se dressent sur la tête, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Donc quand tu vas dans la partie qui est neutralisée et que tu ne sens plus rien... Là, t'as pas besoin d'être clair ressentant. Là, c'est un truc, tout le monde peut l'expérimenter et tout le monde peut programmer ce mot-là.
Ouais.
Alors ça, c'est par exemple, ça c'est des révélations incroyables parce qu'on se dit, mais comment c'est possible qu'un seul mot programmé sur une pierre puisse avoir cet effet. Ouais. Mais là, je vais vous donner un autre truc encore peut-être plus incroyable et que chaque auditeur pourra faire chez lui. C'est un autre domaine qui s'occupe, on va dire, de la planète, c'est comment dynamiser les eaux de la planète.
Ah.
Et ça, bon, je donne plusieurs procédés dans mon livre,
ouais.
Mais il y a un procédé, c'est très facile, puisque c'est une divinité de l'intra-terre qui s'est proposée pour aller chez chaque personne qu'il appellera. Donc je vais donner son nom,
ouais.
Et chaque auditeur qui écoute cette émission, que ce soit en direct ou que ce soit en différé, pourra appeler cette divinité qui s'appelle Sabaya. Alors ça s'écrit S-A-B-A-Y-A.
Ouais, Sabaya. Ouais.
Sabaya, c'est une divinité de la 23e dimension qui se propose de dynamiser un flacon d'eau. Alors vous prenez un flacon d'eau pure, pas un truc d'un litre. Vous
ouais, j'ai un verre devant moi avec de l'eau dedans, je vais pouvoir faire l'expérience.
Bon, pareil, exactement. Non, effectivement, un verre, elle va pouvoir le faire. Plus le flacon est gros,
ouais.
Plus c'est difficile parce qu'après, elle va faire une eau super dynamisée, mais attention, il ne faut pas la boire. C'est une eau super dynamisée qu'après, il faut envoyer quelques gouttes dans un lac, dans un fleuve ou dans une rivière pour le faire monter en vibration.
Ah.
Alors, le seul truc que tu pourras constater, c'est que quand elle sera venue, cette présence chez toi, mais tous les auditeurs peuvent faire ça avec un verre d'eau s'ils n'ont pas un petit flacon.
Ouais.
L'idéal, c'est d'avoir un flacon de 30 ml avec un compte-gouttes, parce que plus l'eau, ben, moins il y a d'eau, plus elle peut y mettre une grande puissance. Et après, avec ce compte-gouttes, tu vas aller dynamiser la rivière, ta piscine, tout ce que tu veux qui est autour de toi où il y a de l'eau. Et ça, c'est très facilement vérifiable pour quelqu'un qui sait mesurer. Donc, si tu as un verre en face de toi, ben, la présence Sabaya, elle va venir dans ton studio.
Ouais.
C'est une divinité, donc elle peut avoir des centaines d'émanations.
Ouais.
Et elle va dynamiser ton verre d'eau à un point que, quand tu vas approcher les mains de ce verre, tu vas sentir que l'eau, c'est comme si elle rayonnait de la lumière, si elle rayonnait une force incroyable.
D'accord.
Donc, Sabaya, je vais te demander donc d'aller dans le studio. Non, moi, c'est elle qui s'est présentée à moi quand tu m'as posé la question tout à l'heure. Donc là, voilà, elle est partie.
Donc là, tu fais appel donc à cette divinité qui est une divinité intraterrestre, qui s'appelle Sabaya, de venir dans le studio, là.
Voilà, exactement. D'accord. Moi, elle est venue quand tu m'as parlé tout à l'heure, mais quelles sont les révélations? C'est elle qui s'est présentée en premier. Elle m'a dit, d'accord, moi, je peux intervenir sur tous les auditeurs et leur faire vivre une expérience qui concerne l'eau de la planète. Parce que l'eau de la planète, ben, déjà, la planète est constituée de plus d'eau que de terre.
Bien sûr, bien sûr.
Mais nous aussi, notre corps humain. Et alors, quand elle s'est présentée, il y a une autre présence qui s'est présentée à côté d'elle. Elle m'a dit, moi, je peux purifier l'eau du corps de chaque personne qui appellera Sabaya.
D'accord. Okay.
Alors, ces présences-là, c'est des présences de dimension très élevée. Ça veut dire qu'elles peuvent elles-mêmes avoir un nombre d'émanations quasiment incalculable, un peu comme les anges.
Ouais.
Donc ces présences-là, chaque auditeur peut l'appeler, mettre un verre d'eau, mais par contre, une fois que le verre sera dynamisé, ne le buvez pas, hein, ça risquerait de vous déstabiliser, il sera trop fort en fréquence.
Ah oui, c'est-à-dire que là, par exemple, si j'appelle Sabaya, j'ai le verre devant moi, j'appelle Sabaya, je lui demande de dynamiser l'eau qu'il y a dans le verre, il ne faut pas que je boive le verre d'eau après. Hein.
Non, non. Après je ne réponds pas des effets, on va dire, parce que c'est de l'eau. Après, tu en mets 10 gouttes dans un lac,
ouais,
monte en vibration tout le lac. Tu comprends?
Ah ouais.
Nous, on a fait l'expérience sur un lac, ici, dans les Pyrénées-Orientales, un lac de 18 millions de mètres cubes.
D'accord.
C'est-à-dire, c'est un lac qui fait à peu près, un kilomètre sur un kilomètre.
D'accord.
L'eau qui était à 200% dans le lac, elle est montée à 11 000%.
D'accord.
En mettant 10 gouttes.
D'accord. Donc, si je verse le verre complet, c'est l'hystérie, quoi.
Si tu verses le verre complet, le lac va monter. Oui, ça sera trop fort. Enfin, ça sera trop fort. Je pense qu'il va y avoir. Ça va se stabiliser à une certaine fréquence quand même. Mais disons qu'il n'y a pas besoin de dépenser tout le verre pour arriver au résultat, quoi.
D'accord.
C'est pour ça que j'ai dit l'idéal, c'est de faire charger un petit flacon avec un compte-gouttes.
Ouais.
Et d'en mettre un peu partout. Parce que si tout le monde commence à dynamiser l'eau autour de soi, la Terre va monter en fréquence.
Ouais.
Si tu dynamises par exemple un fleuve, ben toi, tu es à Paris, tu dynamises la Seine. Eh ben, non seulement, c'est pas juste à l'endroit où tu auras dynamisé, hein, ça va remonter et descendre. Ça va monter et descendre. Hein, ça va pas non plus aller que jusqu'à la mer. Ça
bien
va
sûr
remonter. Ça paraît complètement incroyable. Mais pour les gens qui mesurent, ce n'est pas du tout incroyable. Pour les gens qui mesurent, c'est simplement quelque chose qui peut être constaté.
Alors là, j'ai le verre devant moi. Je fais quoi?
Ben, si tu veux, si tu as le verre devant toi,
ouais,
normalement, Sabaya me dit qu'elle l'a déjà fait.
Ah, d'accord.
Et que tu, si tu approches les mains de chaque côté de ton verre, bon, tu peux faire le code Litmé pour augmenter ton clair ressenti. Tu sais, je te l'avais appris, c'était un code qui permet d'activer les canaux de clair ressenti. Mm-hmm. Donc, c'est en disant trois fois Litmé, on active les canaux de clair ressenti qui sont dans les mains.
Attends, je vais le faire. Hein.
Ouais, Litmé. Tu peux déjà faire ça. Voilà. Ça va augmenter ton clair ressenti.
Donc, Litmé. Voilà. Et je rapproche mes mains, en fait, du verre.
Tu rapproches les mains du verre d'eau, tu vas sentir que l'eau, c'est comme si elle était une énergie très puissante.
On t'entend, ça a coupé. Comme si l'eau, quoi ?
Ah, comme si l'eau était remplie de lumière. Tu vois, c'est comme
d'accord.
Si l'eau...
Écoute, j'ai des picotements dans les mains.
Voilà, c'est ça. Ça va provoquer des picotements. Mais si tu pouvais mesurer la fréquence de l'eau, même si tu as, par exemple, quelqu'un, un radiesthésiste, ou tu te sers d'un pendule, d'un truc comme ça, tu peux mesurer en radiesthésie la fréquence de l'eau. Mais là, tu peux prendre une échelle qui va à des millions de... Je sais pas si c'est un bovis ou un pourcent que tu mesures, mais il faut que tu prennes une grande échelle parce que l'eau, elle est... On appelle ça de l'eau super dynamisée.
Mais c'est incroyable parce que plus je rapproche mes mains du verre, plus les picotements sont forts, en fait.
Ouais, c'est, voilà.
C'est incroyable.
Alors,
ça.
Ce qui va être étonnant, si tu veux, si tu gardes cette eau et puis que tu la mets dans un endroit où il y a beaucoup d'eau, tu vas voir qu'il se passe quelque chose de complètement magique. Alors normalement, quand même, avant de verser cette eau-là dans une rivière ou dans un lac,
ouais.
On va dire le protocole à suivre, c'est d'avertir les présences, et entre autres les gardiens des lieux, des rivières et des lacs, de leur dire, voilà, je viens pour faire une offrande pour dynamiser ces eaux. Donc je vais mettre quelques gouttes, et voilà, je vous demande l'autorisation de faire cette offrande. Voilà, parce qu'il faut quand même prévenir les êtres invisibles que tu vas agir dans leur monde et que l'eau, elle va tout d'un coup s'illuminer. Voilà le genre de révélation, par exemple, que contient ce livre. Et pour dynamiser les eaux, il y a plusieurs méthodes. Il y a cette présence, mais il y a aussi un symbole qu'on peut activer et qui est relié à un égrégore d'être très très élevé que on peut pas appeler comme la présence Sabaya, hein, qui est encore plus élevé. Et là, il faut poser le verre d'eau, enfin ou la pipette d'eau, le petit flacon, il faut le poser sur ce symbole, activer le symbole, et là, c'est pareil, ça va créer de l'eau super dynamisée.
D'accord. On rappelle qu'il faut quand même prévenir les ailes de la nature qui sont autour du lac, enfin, en disant...
Voilà, il faut prévenir, voilà. En général, chaque lieu a un gardien, que ce soit un lac, une rivière, il y a un gardien, il faut appeler le gardien, même si on le sent pas, dire voilà, je viens faire une offrande, je vous remercie de l'accepter, c'est pour dynamiser les eaux de la terre, je verse pas ces gouttes, pour empoisonner la rivière, quoi. C'est vraiment un truc...
D'accord. Non, au contraire, c'est une belle expérience, c'est-à-dire que...
Voilà, c'est une expérience très positive que tout le monde peut faire, et j'invite tous les auditeurs à le faire, parce que ces présences-là, elles sont prêtes à agir, quoi. Elles sont là, elles attendent qu'il y ait des gens qui les appellent.
D'accord. Mais qui sont-elles, ces présences? Quand tu dis que Sabaya est une présence intraterrestre, ça veut dire que elles n'attendent que notre coup de fil, si je veux schématiser, pour nous aider, c'est ça?
Exactement, c'est ça. En fait, il y a 72 divinités dans notre système solaire, il y en a 24 de l'intraterre, qui sont très méconnues, vénérées dans quelques îles comme Bali ou d'autres endroits, mais très peu. Après, il y a 24 divinités terrestres qui sont très connues, alors là, c'est Mère Divine, Christ, Allah, enfin toutes les divinités vénérées dans les religions. Et après, il y a 24 divinités périterrestres qui sont dans l'atmosphère de la Terre, qui, elles, sont très peu connues, un peu comme les divinités de l'intraterre. Chacune de ces divinités a des spécialités. Toutes sont prêtes à aider l'humanité dans son évolution. Pour cela, elles vont passer par des canals, on va dire des channels, des médiums, des géobiologues, des chamans, toutes sortes de gens qui communiquent, on va dire. Des clairvoyants, des télépathes.
Oui, des gens qui ont des ressentis, quoi.
Voilà, il faut quelqu'un qui soit, on va dire, le médium de l'histoire, parce que... Bien que tout le monde puisse apprendre, il y en a quand même pas beaucoup qui l'ont fait, on va dire, qui ont appris. Elles sont bienveillantes et elles souhaitent que l'humanité évolue vers plus de conscience, plus de paix, plus d'amour, plus de bonheur et plus d'équilibre, parce qu'elles-mêmes, elles sont pas outrées de la façon dont on détruit la planète, quoi. Elles sont peinées, elles sont blessées de la façon dont les hommes s'occupent de leur planète, hein. Donc si elles peuvent leur donner un petit coup de main en leur apprenant à neutraliser le résultat de leur technologie inconsciente, si elles peuvent leur donner un petit coup de main en leur apprenant à dynamiser les eaux, elles nous ont donné plein de solutions aussi pour guérir les arbres. Donc là, il y a tout un chapitre guérisseur des arbres, où là, il y a plein de solutions pour guérir les arbres, même des forêts entières qui ont brûlé, etc., pour essayer de faire de dépolluer. Quand il y a souvent des grosses pollutions qui affectent les arbres, et les arbres, c'est le poumon de la planète.
Bien sûr.
Donc, elles nous ont donné des solutions aussi pour s'occuper des entités qui polluent Gaïa, c'est-à-dire la Terre est pleine de bourrées d'entités, des champs de bataille, il y a eu des combats, il y a eu depuis des milliers d'années, des hommes se sont massacrés, il y a plein de gens qui n'ont pas eu de sépulture, qui sont encore coincés dans le monde astral. Ben, elles nous ont donné aussi plein de solutions pour pouvoir purifier ce côté-là de la planète. Donc, dans ce livre, c'est des révélations incroyables comme ça. Le gars qui ne sait pas mesurer, il va se dire, mais le Yann, il est complètement fou. Non, c'est sûr. Mais quand on sait mesurer, qu'on constate que ça marche, alors là, on se dit, mais ce gars-là, il communique vraiment. Il communique vraiment, il ne pourrait pas savoir tout ça, c'est pas possible.
Mais dis-moi, par exemple, l'eau là, du verre, si par exemple, je la verse dans un évier, elle va les rejoindre. L'eau qui va dans les canalisations, donc ça va dynamiser l'eau qui va se...
Ouais, ça serait quand même perdu, parce que si tu dynamises les égouts, bon, peut-être que ça va augmenter la transformation, mais je pense que c'est préférable de la mettre dans une rivière.
Ouais, c'est mieux dans un lac ou dans une rivière, quoi, en fait.
Ouais, ou même dans un puits. Le gars qui a un puits chez lui pour boire, ben, il la met par exemple 3 gouttes dans son puits, ça dynamise l'eau de son puits. Ou le
D'accord.
gars qui a un bassin pour arroser son champ, va mettre 3 gouttes dans le bassin, dans la cuve, tu vois.
Est-ce que je peux, par exemple, le verser dans un arrosoir et puis pour arroser mes plantes?
Pas plus d'une goutte.
Ah ouais, d'accord.
Non, parce que quand tu penses que 10 gouttes, ça fait un lac de 10 millions de mètres cubes, bon, t'as un arrosoir. Bon, en même temps, ça dépend qui c'est qui va le faire. Je pense que la présence qui charge l'eau charge peut-être l'eau en fonction des connaissances de la personne qui va l'utiliser aussi.
D'accord.
C'est vrai que nous, quand on a fait l'expérience, bon, on est des initiés de ce truc-là, donc elles l'ont chargé au maximum qu'elles pouvaient le faire. Peut-être qu'elles vont le charger différemment en fonction des gens qui font l'expérience, parce que pour éviter qu'il y ait des risques.
Bien sûr, il peut y avoir un retour de bâton, quoi. Trop puissant.
Dire, mais moi j'y crois pas, je bois tout le verre, moi je garantis pas ce qui se passe. Je crois pas me rappeler, m'envoyer un email.
Ne faites pas cette expérience, vous qui nous écoutez. Voilà, ne buvez pas l'eau du verre dynamisée.
Voilà, même avec du Ricard, n'importe quoi.
Là, t'as une autre dynamique.
On va pas vous faire un super Ricard.
Voilà, là t'es dynamisé, là t'es dynamité même, je dirais. Et donc, ça, ce sont des révélations que toutes ces divinités te communique au fil de ta vie, en fait.
Alors,
c'est ça.
Ben, en fait, au fur et à mesure que j'écris mes livres, les présences viennent me voir. Alors, par exemple, j'ai demandé d'abord à mes guides, bon, mais qu'est-ce que, pour parler de la Terre, si on veut donner des solutions globales, parce que moi, je voulais pas faire un livre juste pour la maison, etc. Bon, il y a un chapitre là-dessus, mais bon, c'est vrai que c'est bien de vivre dans un lieu équilibré, une maison équilibrée, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même que tout le monde mette la main à la pâte pour essayer, bon Dieu, d'essayer de dépolluer notre planète. Au moins de la protéger de certaines choses. Donc, ces présences viennent me voir au fur et à mesure que j'écris. Et comme, bon, moi, je les ai toutes listées, je sais, par exemple, les 72 divinités, j'ai tous leurs noms. Donc, quand ils viennent me voir, je dis, ah bon, tu as une divinité d'intra-terre, je cherche dans mon tableau. Tac, ah ben oui, tu es celle-là, donc tu as telle spécialité, alors tu viens me voir pourquoi. Tac, ah ben oui, moi, je propose de faire ceci pour les arbres qui ont, par exemple, pour les forêts qui ont brûlé, je peux intervenir. Pour neutraliser toutes les fumées négatives et toutes les mémoires négatives, par exemple. Et si tu veux, au fur et à mesure que j'écris, j'ai des présences qui se manifestent. Donc, évidemment, je note tout ce qu'elles me disent. Et après, je vais faire des essais auprès des antennes. Par exemple, on peut dépolluer avec toute une antenne, avec une seule pierre qu'on va placer à un point précis dans l'antenne. On peut dépolluer. En Guadeloupe, j'ai dépollué une qui fait 50 mètres de haut, avec je sais pas combien de radars et d'antennes dessus, avec une seule pierre. Tac, le truc a disparu, plus aucune influence, alors que ça devait rayonner au moins à 20 km aux alentours, tu vois.
Ouais.
Donc il y a des trucs comme ça, avec un peu de connaissances et beaucoup d'intention d'amour, on peut arriver à protéger des périmètres considérables de la planète et à favoriser, on va dire, que la lumière se manifeste sur cette planète.
Ouais.
Donc voilà.
Alors, elles viennent te voir. Comment tu les sens? Comment elles te parlent?
Alors, moi, je les sens, ça forme comme des, on va dire, des champs d'énergie autour de moi. Mm-hmm. Qui ont je sens leur forme, je sens leur fréquence. À partir de là, je communique avec elle à moitié par télépathie, à moitié par oui, par non. C'est-à-dire que je reçois un message, par exemple, elle me dise ben nous, on voudrait faire un truc sur, par rapport au livre que tu écris, donc, parce qu'elles peuvent venir aussi pour autre chose. Elles peuvent venir pour me signaler qu'il y a, je sais pas moi, une entité dans mon jardin ou autre chose. Mais en fait, là, si elles viennent pendant que j'écris, je leur demande, tiens, est-ce que tu viens parce que je suis en train d'écrire ça? Oui ou non? Tac, elle se déplace. Pour me dire oui, elle se déplace. Non, elle reste sur place. Et j'ai un protocole de communication qui me permet, quand on sait parler comme ça, un langage semi-fermé, ça peut paraître long pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, mais ça peut être très rapide. C'est comme, je sais pas moi, quelqu'un qui écrit en morse, le mec qui a appris à écrire en morse parce qu'il est marin, je sais pas si ça existe encore, hein, mais je te prends cet exemple, les mecs, ils écrivent en morse aussi vite que moi je te parle à la radio, tu vois, parce qu'ils connaissent ce langage. D'autres, je sais pas moi, des sténos qui tapent à la machine plus vite que qu'on parle, etc., ça existe. Et bon, quand tu as appris à communiquer avec un langage semi-fermé avec ses présences, tu peux communiquer... Bon, pas aussi vite que je te parle, hein. Souvent, des fois, il me faut, pour comprendre ce qu'elles veulent me dire, il me faut un quart d'heure de communication. Mais c'est des trucs tellement importants, tellement riches, que je m'en fous de perdre un quart d'heure. Si c'est appris pour avoir une connaissance que personne n'avait auparavant et qui permet de sauvegarder, de préserver la planète, etc. Voilà, donc du coup, moi, pour écrire mon bouquin de géobiologie, ça m'a pris un an quand même.
Oui, quand même, ouais.
Ouais, chaque bouquin me prend à peu près un an, deux ans, mais c'est-à-dire que j'en écris plusieurs simultanément, parce qu'il y a des fois des présences qui viennent, qui me disent « Ah ben non, moi je viens pas pour ce bouquin, je viens pour le prochain, que t'as déjà commencé, qui concerne les initiations, etc. » Donc, alors selon la présence qui vient, mais qui me dit un truc, je me dis « Ah ben ça concerne tel livre, donc je note, ça sera pour le prochain, tu vois ?»
Ouais.
J'écris pas qu'un livre à la fois.
Alors, en même temps, ce qui est bien, c'est que pour les droits d'auteur, c'est toi qui les gardes.
Ben, les droits d'auteur, en fait, je n'ai pas, puisque c'est ma maison d'édition. Alors, je gère ma maison d'édition, et tous les bénéfices sont réinvestis chez les traducteurs, dans l'impression de livres, etc. Voilà, on est en train d'acheter un bâtiment pour déménager, parce que c'est trop petit, il y a trop de gens qui veulent nos livres, donc on est obligé d'embaucher des secrétaires. Enfin, c'est vrai que là, il y a plein de gens qui comprennent que c'est...
Comment t'expliques ça, Yann?
On peut l'expérimenter, quoi.
Comment t'expliques justement ça, qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent à tout cela, qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent en considération tout cela, chose que peut-être on n'a pas vu il y a 10-15 ans, c'est-à-dire que là c'est de plus en plus, malgré qu'on soit dans une société de plus en plus technologique, dans une société de plus en plus avant-gardiste, consumériste, on a quand même toute une partie de la population qui... est intéressé de plus en plus par ces sujets et par tout cela. Comment t'expliques ça?
Moi, j'appelle ça l'instinct de survie. Si tu veux, c'est comme les gens avant de mourir, s'ils savent qu'ils vont mourir dans 6 mois, ils vont se dire il existe peut-être un monde spirituel. Faudrait peut-être que je m'y intéresse.
Ouais.
Et si tu veux, l'instinct de survie, c'est de nous dire sur notre planète, ça devient de plus en plus pas atroce, mais presque. Tu vois, je veux dire, il se passe quand même des choses de plus en plus graves. On est en train de détruire notre planète. Je veux dire, il faut se réveiller. Il y a des gens qui sentent que c'est le moment de se réveiller. On ne fera pas plus tard quand tout sera détruit. Si on ne le fait pas maintenant, c'est maintenant ou jamais qu'on fera ce genre d'expérience.
Mmh.
Et je pense qu'il y a une partie qui sont incarnées pour ça et qui sentent que c'est le moment de le faire.
Mmh.
C'est comme, je pense que tous les gens qui sont incarnés à notre époque ont un rôle à jouer dans cette transformation, parce qu'on vit une époque, même si ça paraît incroyable, c'est quand même aussi une époque formidable dans le potentiel qui est révélé et dans ce que l'on peut créer et réaliser. Parce qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas pu faire l'expérience des gouttes d'eau qui peuvent dynamiser un lac. Je ne pense pas que les divinités non plus se seraient mobilisées à ce point.
Ah, tu as vu toi aussi dans ta vie, tu as vu dans ta vie toi aussi les divinités venir plus facilement qu'il y a quelques temps, quelques années?
Alors oui, bon, alors... Je peux pas dire si c'est en raison de l'urgence planétaire ou en raison du fait que plus je vieillis, plus je m'intéresse à tout ça, plus je monte à l'initiation, plus il y a plein de divinités qui viennent me voir aussi. Donc je ne peux pas, plus je communique, plus il y a des divinités qui cherchent, évidemment des gens qui sont comme moi qui communiquent. Donc je peux pas te dire vraiment si c'est... Il y a les deux, je pense. Il y a le fait que la planète est en train de vivre une période très intense. Donc tout le monde doit se mobiliser, et même les êtres invisibles, que ce soit les divinités et que ce soit les humains, parce qu'il y a une partie d'entre vous, les auditeurs, qui sont des anciens initiés et qui ne le savent pas. Mmh. Il y a une partie d'entre vous qui doivent se réveiller. Et ce que, d'ailleurs, c'est le prochain bouquin que j'écris, là, que je suis en train d'écrire, ça s'appelle Se guérir soi-même, le chemin de l'éveil. C'est comment arriver à se réveiller à ces réalités, quoi. Voilà, c'est.
Mais c'est pas facile de se réveiller non plus, parce que, comme on le disait tout à l'heure.
Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est qui nous endort. Et c'est ça que j'explique. Pourquoi on est endormi, pourquoi on a ces blocages, d'où viennent ces blocages? La plupart du temps, je peux te dire, c'est des trucs d'ancienne vie. Donc c'est dans les corps spirituels. C'est pas des blocages émotionnels ou mentaux qui seraient enlevables avec un petit soin émotionnel. Non, c'est des trucs, c'est des mémoires karmiques, c'est des implants qui nous touchent sur des plans pas possibles, c'est des trous dans le corps causal, c'est des ancêtres bloqués, etc. Il y a de multiples raisons qui font que nous sommes bloqués et qu'on est à deux doigts de l'éveil.
Mmh.
On est à deux doigts de l'éveil. Et c'est ça que j'aimerais faire toucher. Mais il y a, je pense que parmi tous les gens qui t'écoutent, Bob, il y en a plein qui sont à deux doigts de l'éveil, qui sont des anciens initiés, mmh, et qui se disent, il est urgent de faire quelque chose. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose maintenant. On va pas attendre que tout soit détruit, que ça soit la Matrix totale, comme dans les films où il y a...
Ouais, tu sais qu'on a posté une info la semaine dernière, des physiciens sont persuadés que nous vivons dans un hologramme géant. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans Matrix, quoi. Tu vois. Et ce sont des chercheurs en physique, tu vois ce que je veux dire. Donc, on peut imaginer qu'on est dans une matrice incroyable, quoi.
Ah ben moi, quand j'ai vu le film Matrix, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, ça, c'est pas de la science-fiction. Hein. Ouais. Et je me suis dit, les gars qui ont écrit ce film-là, ils veulent le faire passer un message. On est dans un genre de Matrix. Et donc, il faut se déconnecter du truc, quoi.
Ouais.
Je veux dire, il y a un moment où il faut se dire, non, on va prendre conscience qu'on est vraiment des humains, qu'on a un potentiel d'éveil et que l'on peut faire quelque chose. Alors voilà, moi j'invite tous les humains conscients et qui ont envie de faire quelque chose à pratiquer, ces choses-là pour guérir notre planète, pour se guérir eux-mêmes d'abord. La guérison commence par soi-même. Mais après, une fois qu'on est guéri, on va dire, réveillé, on a envie de guérir la planète et les humains qui sont dessus.
Il nous reste, ce sera la dernière question. Depuis toujours, on a la sensation que des initiés ou des gens ont pris le pouvoir pour maîtriser le peuple. Parce que la connaissance, c'est aussi la perte du pouvoir pour les autres.
Alors, effectivement, c'est pas parce qu'on est initié qu'on travaille pour la lumière. Il y a des initiés qui ont les ailes noires. Il y a des initiés qui travaillent pour eux-mêmes, mais il y a des initiés qui travaillent que pour la lumière. Il y a les deux sortes. L'initiation ne veut pas dire pour qui on travaille. Ça veut dire simplement qu'on s'est réveillé et qu'on a retrouvé nos propres pouvoirs intérieurs. Mais malheureusement, c'est sûr qu'il y en a qui travaillent pour des forces, on va dire, personnelles. C'est-à-dire qui travaillent pour s'enrichir, qui travaillent pour avoir du pouvoir, pour toutes sortes de choses, malheureusement, qu'on connaît trop bien et qui sont les pièges d'initiation, on pourrait dire presque. C'est-à-dire toutes ces choses qui font que les gens travaillent pour eux-mêmes et pas pour la vie qui les entoure, pas pour la planète, pas pour les autres.
Bon, Yann, on a fait, je crois, un peu le tour de la question. J'espère que, de toute façon, ce seront toujours les bons qui gagneront à la fin, un peu comme dans les films américains.
Moi, j'y crois,
Bon, dans tous les cas, on rappelle que ton bouquin s'appelle « Enseignement et révélation des gardiens de la Terre ». Aux éditions Auville-le-Roi, ce sont tes éditions, c'est toi qui t'auto-édites. Hein.
Voilà,
ça sort
ça marche de mieux en mieux, puisque
tant mieux.
Ce qui intéresse de plus en plus de gens, et voilà, il y a un site internet, www.auvilleroi.com, où vous pouvez voir les bouquins. Il y a des extraits d'ailleurs, par exemple pour les apiculteurs, j'ai mis des extraits pour toutes les techniques que les guides m'ont données pour
génial.
Protéger les abeilles qui sont en voie de disparition.
Génial.
Je les ai mis en consultation gratuite pour aider les abeilles.
Magnifique, en tout cas, on ira voir, et puis tu seras toujours bien sûr le bienvenu sur BTLV. À très bientôt, j'espère, Yann, et puis passe un joli mois d'août.
Merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir permis aussi de transmettre ces beaux messages. À bientôt.
Le fait que vous ne les voyez pas ne veut pas dire que les choses n'existent pas. Bob vous dit toute la vérité sur BTLV.